Bonjour à tous, aujourd'hui, William Shakespeare. Lorsque je serai mort, ne me pleurez pas davantage. De crainte que les sages, en scrutant votre deuil, ne se gaussent de moi quand je ne serai plus. Shakespeare. D'histoire. Comme si sa vie comptait moins que la leur, Shakespeare est beaucoup moins connu que tous les personnages qu'il a inventés. Tout le monde a entendu parler de Hamlet, de Roméo et Juliette ou d'Othello, mais on ne sait presque rien de la vie de celui qui les a créés pour en faire quelques-uns des héros les plus célèbres de la littérature. On sait qu'il est né en Angleterre, à Stratford-upon-Avon, sous le règne d'Elizabeth Ier, à l'époque où les théâtres de Londres, comme le Globe ou la Rose de Philip Henslowe, étaient considérés comme des lieux de perdition. Un public populaire venait y voir quelques acteurs célèbres, comme ceux de la troupe de Lord Chamberlain, y jouaient des pièces de Christopher Marlowe, de Ben Jonson, ou d'un inconnu qui n'allait pas le rester longtemps, un certain William Shakespeare.
Mon théâtre est fermé pour cause de peste depuis 12 semaines. Mes acteurs en sauraient bien jouer dans toutes les cours d'auberge d'Angleterre.
Je dis que les acteurs sont les valets du diable. Le théâtre du vidéo évoque la lubricité chez vos femmes et la méchanceté chez vos enfants. Et le rose répand une odeur fétide malgré le nom qu'il porte. Et je dis que la peste s'abatte sous ces deux maisons.
Comment ça va, Will?
On me doit encore de l'argent pour cette pièce, Burbage.
Non, pas moi, je n'ai fait que la voler. Quand te joindras-tu à la troupe de Chamberlain?
Quand j'aurai 50 livres.
Ah, tu écris?
Une comédie. Je l'écris pour Henslowe, il m'a payé.
Combien?
10 livres.
La reine l'a commandé, elle aime les comédies et le maître des divertissements nous accorde ses faveurs.
Elle arrive.
Claude Mortet, bonjour.
Bonjour.
Alors la reine, c'était Elisabeth Ier, sous le règne de laquelle a vécu Shakespeare. Shakespeare auquel vous venez de consacrer une biographie passionnante, ce qui n'a pas dû être facile, parce qu'au fond, on ne sait pas grand-chose de Shakespeare, surtout de sa jeunesse.
On sait quand même des tas de choses. Je voudrais dire un mot sur un extrait de ce film. Je pense que c'est Shakespeare in Love.
Ouais, de Branagh.
C'est un extrait dans lequel il y a à peu près tout.
Alors, on peut s'en aller, alors. Tout a été dit.
Oui, tout a été dit, en particulier sur la condition des comédiens, sur la reine, enfin, etc.
Mais on y reviendra. Mais sur ce qu'on sait de Shakespeare, donc, naissance à Stratford-upon-Avon, il est d'une famille catholique, c'est très important. Nous sommes avec une reine qui est anglicane.
Oui. Hein.
Et puis, alors, mariée à 18 ans.
Je dirais qu'elle est anglicane sans trop. Il faut quand même savoir qu'après une période assez forte de, comment dirais-je, après tout ce qu'avait fait Henri VIII, disons pour promouvoir la religion anglicane, Elisabeth a quand même adopté une attitude assez mesurée. Enfin, bien sûr, elle a fait exécuter Marie Stuart, qu'elle n'a jamais rencontrée, mais tout de même, elle l'a fait exécuter. Sœur Cécile y était pour quelque chose, mais elle n'a jamais été quand même très 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 revancharde envers les catholiques qui ont quand même vécu. Ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient une vie facile. Comme vous le disiez, c'est quand même un point important de la vie de Shakespeare.
Alors il est marié donc à 18 ans avec Anne Hathaway, donc il aura 3 enfants, puis alors après on le perd de vue pendant à peu près 8 ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On pense qu'il a travaillé dans le théâtre comme gardien de chevaux, souffleur, j'ai appris en vous lisant Claude Mortet, que souffleur dans les théâtres, on appelait ça prompteur.
Ah oui, absolument, oui. C'est prompteur. Et il faut souligner d'ailleurs que les prompteurs, de toute façon, les souffleurs en question, se faisaient souffler leurs textes par les éditeurs qui se permettaient de les éditer sans copyright.
Et puis alors, il était et il est resté comédien. On oublie que Shakespeare n'a pas seulement écrit des pièces de théâtre, mais qu'il les jouait aussi.
Oui, oui. C'est très intéressant les années, ce qu'on peut appeler comme Jésus, les années obscures de Shakespeare. Parce qu'effectivement, pendant tout un laps de temps, on ne sait rien du tout de lui. Alors la légende veut qu'il ait été palefrenier à la porte des théâtres. Bon, d'accord. On veut aussi qu'il ait été clerc de notaire ou je sais pas quoi. Il a fait toutes sortes de métiers. Ce qui est plus vraisemblable, c'est étant gosse et ayant un petit peu fait l'école buissonnière quand même, il fréquentait beaucoup les troupes de comédiens qui passaient à Stratford, et il y en avait énormément de tournées à l'époque, enfin, etc. Et puis il a fini par y prendre goût, et puis par se faire engager comme comédien au cachet. Je crois que c'est ça, les années obscures n'ont jamais trop intérêt à les révéler, parce qu'il se passe rien de très important.
Mais peut-être s'est-il cultivé, parce que c'était pas le cas. Alors justement, cette absence de culture, c'est quelque chose qui a alimenté une rumeur qu'on a retrouvée aussi pour Molière. On s'est dit, est-ce que Molière a vraiment écrit ses pièces? C'est sans doute Corneille. Pour Shakespeare, on a dit la même chose. On a dit, c'est Francis Bacon qui était un conseiller de la reine. Il y a des tas de prétendants qui disaient Shakespeare, en fait, n'a pas écrit ses pièces.
Il y avait quand même une habitude, si je puis dire, qui était largement répandue dans le milieu théâtral à l'époque. C'était qu'une pièce ne s'écrivait pas tout seul dans un coin, dans une mansarde, enfin, à la plume d'oie. C'était pas ça du tout. C'était, le travail théâtral était plutôt d'auteur. On était plutôt un travail collectif. C'est-à-dire, on se mettait à plusieurs sur la même pièce, on se fâchait pas, on se disputait, mais on se fâchait pas. Et les gens écrivaient une pièce, c'est comme ça d'ailleurs qu'on est venu à Henri VI. Henri VI, c'est très composite.
La première pièce de Shakespeare,
quand même plus de 2000 vers, trois parties. Mmh. Et c'était comme ça, un collectif. C'est pour ça d'ailleurs que Brecht le dénomme en allemand dramaturge en chef. Mmh. Il est arrivé un petit peu comme ça à l'état de chef de troupe et de chef d'écriture, si je puis dire.
Alors, il a quand même écrit pour l'essentiel ses pièces. Je crois que quelqu'un, je ne sais plus qui, au siècle dernier, avait conclu la polémique en disant Shakespeare n'a pas écrit ses pièces, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelait d'ailleurs Shakespeare. Alors, ça devait être Alphonse Allais. On commence en tout cas à parler de lui à Londres à partir de 1590, à l'époque où la reine Élisabeth Ière encourageait le théâtre malgré son aversion pour les tragédies.
Majesté,
redressez-vous, mon enfant. Je vous connais. Vous assistez à toutes les représentations à Whitehall, à Richmond.
Oui, Majesté.
Qu'est-ce donc qui vous plaît tant? Aimez-vous les histoires de rois et de reines? Ou les hauts faits d'armes? Ou l'amour courtois?
J'aime le théâtre. Voir des histoires interprétées pour moi par une troupe de comédiens est une chose...
Ce n'est pas pour vous qu'ils les interprètent, c'est pour moi. Les dramaturges ne nous enseignent rien sur l'amour. Ils l'enjolivent, ils en montrent la comédie ou le libertinage. En aucun cas la vraie nature.
Oh, bien au contraire.
Le maître des divertissements ne voit en nous que de pauvres vagabonds et colporteurs de pompeuses phrases. Mais mon père, James Burbage, fut le premier à se voir autorisé par sa majesté à créer une troupe d'acteurs. Et c'est chez des poètes qu'il puisa le théâtre de son époque. Suivons cet exemple et défendons notre art. Will Shakespeare a une pièce, j'ai un théâtre.
Fine excellent ladies, cheap choice prevail and new. Good penny words, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view. A beggar may be liberal of love.
De jolis bibelots pour les femmes, c'est une chanson d'un contemporain de Shakespeare, John Dowland, dont la musique était jouée dans les théâtres. Il y avait de la musique, il y a vraiment, vous dites beaucoup de choses sur le théâtre élisabétain, de l'époque du XVIe siècle, et là, vraiment, ça n'a rien à voir avec le théâtre d'aujourd'hui, Claude Mourté. D'abord, il était très populaire, il y avait beaucoup de gens qui et beaucoup de théâtres à Londres.
Mais il était populaire pour une bonne raison, c'est que les comédiens n'avaient pas le droit de citer la cité, justement. On les repoussait au-delà des limites de
comme
des
en France,
remparts de
enfin,
Londres.
C'était des saltimbanques.
Oui, c'était plus que des saltimbanques. Mmh. C'était des gredins. On n'hésitait pas à les mettre en prison et quelquefois au pilori. C'était quelque chose d'absolument épouvantable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des jeunes gens qui avaient décidé vraiment de faire du théâtre, comme beaucoup de jeunes de nos jours, comme ça, et qui se sont dit, ben, écoutez, parce qu'on veut pas nous laisser faire du théâtre à Londres, où il y avait malgré tout des troupes établies. en particulier la troupe de la reine, c'était les Queensmen. Et on va aller se mettre en dehors des remparts. Alors ils sont donc allés s'installer d'abord au nord-est, au nord de Londres, à Shoreditch, où Burbage a construit le premier théâtre, qui s'appelait tout simplement The Theatre, d'ailleurs c'était là. Burbage qui devait devenir un des plus grands acteurs des pièces de Shakespeare, en particulier en interprétant Hamlet. Ensuite, ils ont construit un théâtre qui s'appelait The Curtain, et dans le même temps, au sud de Londres, de l'autre côté de la Tamise, alors il fallait y aller par le pont, ou par des bateliers, ils ont construit toute une série de théâtres, et où? Parce qu'il n'y avait pas de théâtre. Donc ils sont allés s'installer dans des cours d'auberge, dans des endroits qui servaient d'arène pour les combats de coqs ou des combats d'ours, enfin des choses absolument invraisemblables. Et ils se sont adressés, alors c'est ça qui est extrêmement important, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans cette bio de Shakespeare, c'est la fondation d'un véritable théâtre populaire. C'était le premier, on avait connu les mystères du Moyen-Âge, qui se trimbalaient sur les routes dans des chariots, enfin etc. Ça c'était absolument passionnant. Mais là, on voit des jeunes gens qui vont s'installer dans des cours d'auberge, et puis qui finissent dans ces cours d'auberge par y bâtir un théâtre. C'est-à-dire, ils bâtissent une scène, avec des galeries comme ça, des machins comme ça, et ils s'adressent à un public qui n'est absolument pas connaisseur du théâtre. Ils connaissent rien, les gens. Le quartier est plein de gens populaires, le quartier est plein de bordels, enfin, c'est absolument incroyable.
Et puis alors, ces gens-là, justement, ces spectateurs du théâtre, théâtre du Globe ou du théâtre tout court, et ils sont dans les parterres, ils sont là où aujourd'hui les places sont les plus chères, c'était les moins chères, ils étaient debout sous la scène. Vous dites que c'est de là que vient peut-être le mot understand, sous la scène.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Peter Ackroyd, dans un de ses derniers romans, non pas dans un de ses livres qui est absolument fondamentaux, qui s'appelle Londres, la biographie, mais dans un autre livre où il parle de Charles Lamb. Et il dit, les understanders, c'était tout simplement les gens qui étaient debout, qui payaient un penny pour entrer au théâtre, et qui étaient debout, alors ils avaient le menton au ras de la scène. Et understanders, je lui en laisse la responsabilité, remarque.
Alors, ces théâtres étaient souvent fermés, hein. Il y a eu une grosse fermeture à cause de la peste, hein, parce que Londres a été ravagée par la peste.
Il y a deux sortes de fermetures. Il y a d'abord la fermeture à cause des épidémies de peste, en particulier quand Shakespeare commence sa carrière avec Henri VI, pof, il est interrompu tout de suite parce qu'il y a épidémie de peste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit ces deux grands recueils de poèmes, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. Il ne peut pas faire autre chose que de faire de la poésie. Et surtout parce que il y avait des gens dans les autorités de Londres qui vraiment les pourchassaient, les traquaient, les embêtaient de toutes les façons.
Oui, parce qu'ils sont mal vus, hein, c'est un peu
très
des voyous. Alors des voyous quand même qui s'appellent, c'était des grands dramaturges de l'époque, Christopher Marlowe, Ben Jonson, et puis qui se retrouvaient avec Shakespeare.
Ils ont un curriculum d'ailleurs. Marlowe, il est mort assassiné au cours d'une risque. Ben Jonson, il s'est fait emprisonner très longtemps à cause d'un duel, etc.
Et tout ça se passait plus souvent dans les tavernes de Londres que dans les coulisses du Globe.
Les théâtres sont rouverts ! Sur ordre du maître des divertissements, les théâtres sont rouverts !
Vous avez fait rouvrir les théâtres ?
En effet, maître Shakespeare.
Comment ça va, Will ?
Bien, tout va très bien.
Je ferai boire, monsieur Marlowe. On dit que t'as une nouvelle pièce pour le Rideau ?
Elle n'est pas nouvelle, c'est mon docteur Faust.
Hein ?
On est presque fini une nouvelle qui est meilleure. Massacre à Paris.
Bon titre.
Quel est le tien ?
Roméo est-elle la fille du pirate ?
Roméo est italien. Toujours amoureux, toujours volage.
Ouais, c'est bon. Il tombe sur...
Est-elle ?
Tu crois ?
La fille de son ennemi.
Romeo, a young man of Verona. A comedy by William Shakespeare.
Et c'était un autre extrait de Shakespeare in Love de Kenneth Branagh qui met en scène le jeune Shakespeare à l'époque de Roméo et Juliette. C'était en 1595. Mais Shakespeare à l'époque était déjà connu, et chose surprenante, pour autre chose que pour le théâtre, et quelque chose d'ailleurs qui lui plaisait plus que le théâtre, Claude Mourté, c'était la poésie.
Oui, comme je le disais, il a été bien obligé de faire de la poésie parce que le théâtre a été fermé, mais néanmoins, il voulait surtout et avant tout être poète. Alors il y a les sonnets qui ont commencé à circuler dans le... comment dirais-je, un peu dans la gentry, pas seulement pas, alors là, pas dans le public populaire du théâtre du Globe, dont je rappelle d'ailleurs que la devise était « Le monde entier est un théâtre », qui est une réplique d'ailleurs de Shakespeare. Et donc ces sonnets ont commencé à circuler un petit peu sous le manteau, comme ça, et on a commencé à se poser des... La poésie était quand même tout à fait mieux vue que le théâtre à l'époque, ça c'était quand même une chose extrêmement importante. Il y avait tout un courant qui venait d'ailleurs d'Europe.
Ça durait longtemps d'ailleurs.
Oui, ça durait extrêmement longtemps.
Et... Alors, il y a eu quand même le théâtre, la première pièce co-signée, si elle n'est pas signée entièrement par Shakespeare, c'est Henri VI hein, en 1590, qui est une pièce historique comme beaucoup d'autres. Cela dit, il fait très attention, hein, Shakespeare. Il veut pas fâcher la reine, donc quand il évoque des rois ou des reines d'Angleterre, il remonte au Moyen-Âge. Hein. Et ouais. C'est le cas pour Henri VI, c'est le cas alors pour le plus terrible de tous les rois qu'il ait mis en scène, qui était Richard III.
Oui, mais enfin, il veut surtout parler des Tudors, en fait. Mmh. Et donc, dans la chute de Richard III, il voit surtout, lui, l'avènement des Tudors, avec Richmond qui devient Henri VII. Henri VII perd Henri VIII, Henri VIII perd Elisabeth. Mmh. Voilà, tout s'enchaîne.
Alors, cela dit, ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que c'est un milieu, je suppose, qui... Hier comme aujourd'hui, on doit se jalouser, c'est qu'il est respecté non seulement par le public qui l'applaudit, mais aussi par ses pairs. Hein. Marlowe, qui était le grand tragédien, le grand dramaturge de l'époque, Ben Jonson qui disait de Shakespeare « Triomphe au mon pays, tu possèdes un auteur à qui toutes les scènes d'Europe doivent rendre hommage. Il n'était pas une époque, mais de tous les temps. » Il en parle après la mort de Shakespeare, mais il y avait un grand respect, c'était d'ailleurs des amis.
Ah oui, c'était des amis. D'ailleurs, ils sont morts ensemble. Non, Ben Jonson est mort plus tard. Mais Shakespeare, lui, est mort à la suite, dit-on, mais c'est à peu près confirmé.
D'une beuverie avec Ben Jonson,
oui.
Et Marlowe était mort bien avant, assassiné dans une taverne, donc respecté par ses pairs, et puis aussi par le public, enthousiasmé par ses premières pièces, comme Roméo et Juliette, qui se termine par le suicide de Juliette.
Oh, Dag, bienvenue! Que ceci soit ton fourreau. Repose ici. Et que la mort vienne.
C'est une morne paix qui nous est apportée par ce matin. Le soleil, tout à sa douleur, ne montrera pas sa tête. Partons. Allons parler encore de ces tristes événements. Certains seront punis et d'autres seront pardonnés. Mais jamais il n'y eut d'histoire plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo.
Toujours un extrait de Shakespeare in Love de John Madden et pas de Kenneth Branagh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Claude Mortet. Alors, ça, c'est une tragédie. On parle plus souvent, d'ailleurs, des tragédies de Shakespeare, des drames de Shakespeare, que de ses comédies. Il en a écrit aussi beaucoup. Et même, ça, presque, enfin, pendant un certain temps, presque que des comédies.
Oui, et puis, pas des plus mauvaises, si je puis dire. En particulier, Le songe d'une nuit d'été, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais il y en a d'autres aussi. Bon, La nuit des rois, c'est pas mal non plus, enfin, etc. Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, mais c'est très important aussi, cette espèce d'ambivalence entre le fait de pouvoir traiter des drames noirs, comme par exemple le Marchand de Venise, ou même Hamlet, ou Othello, enfin, tout ça.
Qui reviendra, parce que ça, c'est à la fin de sa vie, enfin, c'est les dernières années de sa vie.
Oui, cette espèce d'ambivalence entre le comique et le... Mais il faut se rappeler la présence de ce public, que vous évoquiez très bien tout à l'heure, la présence de ce public extrêmement populaire, qui avait envie de rigoler et tout, enfin, c'est absolument incroyable. Quand vous pensez qu'au milieu de Macbeth, au moment où on va découvrir que Duncan a été assassiné, il y a la scène du portier. Mmh. Qui est une scène comique. Vous pensez qu'au milieu d'Hamlet, au milieu de la scène du cimetière, au moment où Hamlet discute avec le fossoyeur, c'est une scène comique. Enfin.
Mm-hmm. Oui, c'était un peu les deux. Parfois, c'était un peu les deux en même temps. Vous venez de citer Macbeth. Alors, le héros, c'est plutôt une héroïne. C'est une femme, c'est Lady Macbeth, ambitieuse, qui pousse son mari à l'assassinat, au meurtre, etc. Il y a tout un chapitre de votre livre, Claude Mortet, consacré à Shakespeare et les femmes. Il était marié. On ne sait pas s'il était fidèle, sa femme était exemplaire, elle vivait à Stratford pendant que lui montait des pièces à Londres. Mais c'est toujours, ou bien des femmes presque virginales qui se suicident, hein, comme Ophélie, comme Juliette, ou bien alors vraiment des abominables bonnes femmes comme Lady Macbeth. C'était quoi Shakespeare et les femmes, pour le peu qu'on en sache.
Ou Katharina dans la Mégère apprivoisée.
Oui.
Katharina dans la Mégère apprivoisée, c'est un exemple type d'ailleurs, parce qu'elle est complètement indomptée au départ. On ne peut rien faire sinon avec une cravache, ce que fait d'ailleurs Petruccio. Et puis finalement, elle se soumet, elle fait un grand discours pour faire l'apologie du mariage et du mari, mais rien ne dit qu'elle n'en pense pas moins et qu'elle ne va pas continuer à vivre sa vie de femme. C'est très... Mais il a dû connaître, oui, beaucoup de femmes, ce qui est d'autant plus paradoxal que, comme on le sait, à l'époque, les rôles de femmes étaient interprétés jusqu'à 1613 ou 15, même, je crois, par des garçons. Ouais. C'est d'ailleurs comme c'est là-dessus qu'est bâti le film que vous avez cité plusieurs fois de Shakespeare in Love. Parce que c'est une jeune fille qui veut faire du théâtre, donc elle est obligée de se travestir en garçon. Donc il y a un garçon qui tombe, Shakespeare qui tombe amoureux d'elle.
C'est une jeune fille qui joue Roméo, je crois. Enfin, je sais plus très bien. C'est assez, assez confus. Mais enfin, c'est un très très beau film. Qu'est-ce qui explique qu'il ait pu effacer comme ça des gens aussi importants? Effacer, non, parce que on les monte encore, on les regarde encore avec plaisir. Mais, comme Marlowe, Ben Jonson, qu'est-ce qu'il avait de plus qu'eux?
Ce qu'il avait de plus qu'eux, c'est exactement ce qu'il a apporté le plus, par exemple, à la tragédie de Thomas Kyd, Hamlet, avec son Hamlet à lui. C'est-à-dire une réflexion philosophique, une humanité et des prolongements humains que n'avait pas la pièce de Thomas Kyd. C'est ça la différence. C'est ça, je crois, qui fait la différence entre un auteur qui devient universel et les autres.
To be or not to be. That is the question.
Être ou ne pas être, voilà la question. Où est la noblesse du cœur? Supporter les coups d'un sort outrageux ou apprendre les armes contre un océan de mots, les combattre et à leur mettre fin? Mourir, dormir, c'est tout. Et en finir avec le sommeil, avec les souffrances du cœur, les milliers de tourments qui irritent notre chair. C'est là une conclusion à souhaiter de tout son cœur. Mourir, dormir. Dormir. Rêver, peut-être.
For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us force.
Merci Claude Mourtet, c'est la première fois qu'on demande à un de nos invités de traduire un texte, un magnifique texte, on ne fait pas n'importe lequel, c'est évidemment le monologue d'Hamlet interprété par Kenneth Branagh qui est marqué.
Mais là, je l'ai joué parce que je vous signale quand même que j'ai fait ma première mise en scène à l'âge de 18 ans avec une traduction et une adaptation d'Hamlet.
Comment se fait-il que ces cinq mots, être ou ne pas être, y soient restés? Tout le monde les connaît, on a toujours entendu parler au moins une fois dans sa vie. Pourtant, c'est des mots tout simples.
Oui,
c'est une question que se pose tout le monde.
C'est ce qui fait leur force, d'ailleurs. Il y a une foule de monologues qui sont absolument interminables dans Shakespeare, d'ailleurs. Or, il faut admirer les acteurs qui supportent le texte de Shakespeare. C'est très long. Or, celui-là est vraiment un modèle de concision. Il n'y a qu'un autre monologue à lui opposer, je crois, c'est celui de la reine Mab dans Roméo et Juliette, comme
alors,
concision.
Ce Hamlet, c'est la première de ce qu'on appelait, de ce que Shakespeare appelait lui-même les dark plays, des pièces noires. Hein. Hamlet, c'est 1601, et jusqu'en 1605, il y aura Othello, il y aura Le Roi Lear, il y aura Macbeth. Il faut rappeler, d'ailleurs, ces pièces noires viennent peut-être, vous le rappelez, de la mort de son fils qui s'appelait Hamlet. Hein. Le choix du nom de Hamlet vienne de là, on n'en sait pas grand-chose. Et puis alors, après ces pièces, il se sent décliné, il se retire, il retourne dans sa ville natale, qu'il ne va pratiquement plus quitter jusqu'à sa mort en 1623. C'est curieux, ce Shakespeare retraité, paisible, s'occupant des bornages.
Les dark plays, c'est une bonne explication, c'est qu'on commençait à quitter les théâtres de briques et de torchis qui étaient le Globe, enfin tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, qui étaient installés dans des cours d'auberge, enfin, etc., pour des salles fermées, où on jouait le soir, aux chandelles, enfin, etc. Bon, c'était une atmosphère tout à fait différente. Quant à l'évolution de l'inspiration, ça correspond aussi quand même avec la fin. Ça, c'est très important au point de vue historique, Patrice. C'est la fin quand même de la reine Elisabeth. On arrive vers 1603, donc elle va être remplacée par James VI, d'Écosse, qui devient James Ier d'Angleterre. Et à partir de là, c'est tout à fait différent. Puis en plus, Shakespeare quand même vieillit. Mais à un moment, il va quand même se retirer, oui, effectivement, sous les ombrages de Stratford.
Il meurt en 1623, on dit, après une beuverie avec son copain Ben Jonson, et il reste, il n'est pas mort vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'il reste encore aujourd'hui, Claude Mortet? Pourquoi est-ce qu'il est sans doute l'auteur pratiquement le plus joué, dont les pièces sont
ouais. C'est extrêmement simple, c'est que dans Shakespeare, dans ses pièces, il y a tout. Il y a tout le théâtre, il y a toute l'époque, qui était quand même une époque fondatrice de notre civilisation. Il y a tous les personnages qu'on peut inventer, que ce soit le juif dans le marchand de Nice, que ce soit le nègre dans Othello, etc. Il y a tout, tout.
Merci Claude Mortet. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie. Elle est excellente, Shakespeare, publiée aux éditions Gallimard dans la collection de poche Folio Biographie. Vous avez pu entendre des extraits des films Shakespeare in Love de John Madden, disponible en DVD aux éditions Universal Pictures, et Hamlet de Kenneth Branagh au VHS édition GCR. Et maintenant la suite de notre jeu concours pour jouer et gagner le livre Éphéméris, édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Répondez à la question suivante, puisque nous sommes le 30 novembre. Le 30 novembre 1988 a vu la création, réponse 1, du RMI, réponse 2, de l'ISF, réponse 3, de la CSG. Donc le 30 novembre 88, laquelle de ces réponses est la bonne? Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Cédric Lalanne, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Une petite précision sur l'émission d'hier consacrée à Tintin pour les auditeurs qui nous ont écrit pour rappeler que Tintin au pays des soviets avait été réédité. C'est vrai, mais je ne crois pas avoir dit le contraire. Ce que j'ai dit, c'est que Hergé ne voulait pas que cette histoire soit rééditée de son vivant.